France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On écoute aujourd'hui l'histoire de Marvin, un jeune Belge qui, à 23 ans, était déjà millionnaire. Un objectif qu'il s'est fixé dès son plus jeune âge. Un jeune homme énergique, sympathique, qui, peut-être parce qu'il est belge ou parce qu'il est comme ça, a la rare qualité de parler cash, de ne pas se tortiller la jupe en refusant de donner des chiffres. Il est riche, il assume et il raconte. Et puis, à la différence de la plupart des riches aujourd'hui, il ne s'est pas seulement donné la peine de naître. Il n'a pas hérité, mais sué pour gagner ses millions et il en est fier. Il avoue même, je vous le spoil un peu, qu'il est assez radin, car s'il donnait leur argent ou s'il le dépensait trop, eh bien, les riches ne le sauraient plus. Logique. Mais Marvin ne nous incite pas seulement à rêver de richesse et ce qu'on ferait de notre argent. Son témoignage nous encourage également à réfléchir à l'idée de mérite. Un cliché un peu simplet qui prétend que quand on veut, on peut, il suffit de traverser la rue ou bien de se lever tôt le matin, selon les rhétoriques développées par nos différents présidents de la République, toujours friands de cette pensée qui fait culpabiliser les pauvres. En réalité, l'idée qu'on puisse entièrement mériter sa réussite est une fiction morale. C'est le grand philosophe John Rawls qui le dit et son point de vue est assez original. Pour lui, l'idée que les individus réussissent uniquement grâce à leurs efforts fait semblant d'ignorer que nos capacités, comme l'intelligence, la mémoire, la volonté ou même la discipline, sont distribuées par une sorte de loterie naturelle. On ne choisit pas d'être travailleur, on ne choisit pas d'avoir un QI élevé, on ne choisit pas son tempérament, sa santé, son énergie. Il y a dans cette distribution des inégalités génétiques, psychologiques, qui viennent se superposer à celles plus connues, les inégalités de patrimoine, d'héritage ou de capital culturel. Pour Rawls, même l'effort, la persévérance ou la motivation, comme celle de Marvin par exemple, sont largement déterminés par l'éducation reçue, les modèles familiaux ou, dans le cas de Marvin, les contre-modèles. Donc même si un individu travaille plus, c'est en grande partie le résultat d'un ensemble de conditions extérieurement produites. John Rawls en conclut qu'une société juste n'est donc pas celle où chacun a ce qu'il mérite, mais celle où les institutions corrigent les hasards naturels et sociaux pour réduire les écarts, protéger les plus vulnérables, garantir l'égalité réelle des chances, mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Tout de suite, voici ce qui a fait de Marvin un millionnaire et comment ses conditions sont parfois surprenantes et intéressantes. Un récit d'Olivia Muller.
Marvin Ndiaye, 28 ans, entrepreneur, marié et surtout papa d'un incroyable petit garçon. J'habite donc à Bruxelles, en Belgique. Mon enfance était beaucoup de bonheur et beaucoup de chaos, avec des parents qui ont gagné de l'argent puis ensuite qui ont fait faillite. J'aimais beaucoup aller chez mes grands-parents. Mon grand-père, il aime les trucs simples, genre il cultive ses légumes lui-même. En fait, tout était cool chez mes grands-parents parce que, en fait, ils faisaient tout, genre ils avaient un chien. Ils avaient pas d'ordinateur. En fait, ils m'ont appris beaucoup de choses qui sont basiques dans la vie, mais qui sont simples. Les relations humaines avant tout. Les valeurs. Donc, avoir une parole. Travailler énormément. Et surtout, mes grands-parents, c'était un peu l'inverse de mes parents. Parce que mes grands-parents sont 100% dans la bienveillance, l'amour, l'écoute. Et là où mes parents, c'était totalement l'inverse. Mes parents, c'était donc des entrepreneurs. Leur perception du monde et leur manière dont ils nous ont transmis des choses, c'est pas courant du tout. Par exemple, quand il y avait des problèmes, ils faisaient des prières, ils mettaient des chants grégoriens, ils mettaient des choses qu'on voit pas partout. Enfin, mon père avait plein de réflexes. Typiquement, t'étais malade, il nous donnait une espèce de poudre quand on mangeait ça. Enfin, on était malade, il soufflait. Enfin, c'est plein de trucs en fait, plein de trucs mystiques. Je pense que c'est lié beaucoup à l'Afrique aussi. Je pense que c'est très culturel. Et une anecdote qui est très marrante. Mes parents, quand ils allaient faire les courses, avant qu'ils commencent à gagner de l'argent, mon père, il remplit le caddie. Et c'est devant la caissière du Cora qui choisit en fait ce qu'il peut ou ce qu'il peut pas en fonction de ce qu'il y a sur la carte. c'est étrange de faire ça. Mon père pensait aussi être un être différent des autres, un être supérieur par rapport à la moyenne. Des fois, il s'apparentait à Dieu. Et donc, très jeune, j'ai pris du recul par rapport à mes parents. Et je me dis, mais en fait, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et je le voyais constamment. Mais je veux dire, c'était très bizarre. C'était une enfance très, très particulière. Et je ne sais pas d'où est venue cette envie de vraiment s'extraire de ça, de regarder tout d'une vision et dire, c'est pas normal ce qui se passe ici. C'est juste pas normal. Enfin, moi, dans ma vie, en tout cas, j'essaie après que tout soit le plus normal possible et sain. Beaucoup de gens pensent que, enfin, il y a une forme de folie dans ma vie aujourd'hui. Mais s'ils savaient d'où je viens en termes de folie, enfin, techniquement, là, aujourd'hui, je suis normal. Du coup, il y a une première période de ma vie où mon cerveau, en fait, a un problème parce que, ben, la personnalité de mes parents était folle, mais ça marchait. En fait, le premier métier de mes parents, ça a été donc d'avoir un café. Ça marchait super bien. Tous les deux ans, on changeait de voiture. On partait en vacances régulièrement. On a grandi dans une grande maison, peut-être 600, 700 mètres carrés. Puis ensuite, ils ont voulu ouvrir un deuxième café. Mais ils n'avaient pas compris que ce n'était pas vraiment des entrepreneurs. Et donc ça a été leur première faillite. Il y a des rénovations dans la maison, on ne les fait pas, on ne change plus de voiture, on ne renouvelle pas des cotisations non plus pour aller au sport, on ne part plus en vacances. En fait, on ne fait rien. Je sens mon père tout doucement, au fur et à mesure des années, donc réduire. Pas son ambition, parce que dans ses paroles, il était toujours le même, mais dans ses actes, c'était plus toujours la même chose. Il passait toutes ses journées dans son lit, toutes les journées, tout le temps. Oui, il tombe malade, il fait une dépression, mais je ne savais pas du tout l'identifier comme ça à l'époque. Et donc, il regarde la télé toute la journée. Donc voilà. Et en fait, je crois que je rentre dans l'adolescence au moment où ils font faillite. Et là, je fais un vrai déni, parce que la faillite, on l'a jamais annoncée. Mes frères, ma mère, tout le monde, jamais on dira en fait qu'on est en faillite tant qu'on n'est pas redevenu riche. Donc en fait, de là, en gros, à 12 ans, je me dis, oh purée, là c'est chaud. On a les huissiers qui viennent, on nous demande de cacher nos PlayStation, nos jeux, etc. Parce que derrière, ils vont venir les saisir. Donc 2 ans se passent. À 14 ans, mes parents divorcent. Donc quand mon père perd ma mère... Là, c'était un problème. Donc, mon père a décidé un peu de lâcher les affaires. Parce que mon père, vu que l'argent n'a pas vraiment de valeur pour lui, s'il n'y avait pas ma mère, ça ne faisait pas de sens. Vu que ça ne fait pas de sens, il laisse tout tomber. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, moi, je commence à travailler vers 14 ans dans un restaurant. Et donc, j'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo. Beaucoup. 13, 14, 15 heures, 16 heures par jour. Jusqu'à en fait, que ça devienne ma vie, en fait, les jeux vidéo. Mais ma mère a quand même l'intelligence à ce moment-là de me mettre dans un cursus professionnel, donc un CAP cuisine. Et donc ma vie se résume à aller en cours, faire mon job étudiant et jouer aux jeux vidéo. Qui dit mode de vie sédentaire dit prise de poids, et donc je prends beaucoup de poids à ce moment-là. Du coup, on habite dans un endroit qui, je pense, aujourd'hui serait catégorisé d'insalubre. On a énormément d'humidité, pas de chauffage central, on chauffe avec le chauffage au pétrole. Quand il y a des fortes pluies, la pluie remonte en fait par les sols de la maison et donc crée des inondations dans la maison. Et c'est vrai que pendant une longue période, et même j'ai eu 2 fois des copains qui sont venus à la maison, les fois où il y a eu de la pluie et qui venaient, ils devaient nous aider à racler et sortir l'eau en fait de la maison. Donc c'est quand on sort de son environnement qu'on se rend compte que c'est pas normal. Parce qu'à l'époque, enfin, racler la maison ou vivre dans l'humidité, tout ça en fait, c'est des choses qui semblaient normales. Ça me choquait pas tant que ça. Et donc, en 2015, donc mon père décède. On ne sait toujours pas si c'est une forme de suicide ou une maladie, parce que mon père est décédé en fait au Sénégal. Je me rends compte, oui, que là, le temps est compté. Et là, j'ai un gros déclic où je me dis que, en fait, la personne que je suis doit mourir. Parce qu'en fait, si je reste le Marvin de ces 18 premières années de vie... on ne va jamais s'en sortir. Mes comportements, ma manière de penser, ma manière de faire, elle n'est pas adaptée à celle que j'envisage d'être dans le futur. Et donc, le premier truc que je fais pour tuer ma personnalité, c'est perdre du poids. J'ai une chance, c'est que quand je m'engage envers moi-même ou quand j'ai envie de faire quelque chose, je développe une obsession pour ça et j'arrive à mes fins. Et donc, je perds du coup 25 kilos sur 3 premiers mois. Là, ça a été le premier gros déclic parce que je me suis dit, tiens, c'est fou, on peut arriver à changer sa vie. Et puis après avoir évolué physiquement, je me suis dit, tiens, deuxième étape, attends, faut qu'on gagne de l'argent parce que on n'a pas le choix. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai un impératif qui est que on doit racheter notre maison. Donc, malgré le fait qu'elle n'est pas top, on doit quand même la racheter parce que c'est là qu'on vit. Et donc, je finis mon cursus scolaire Et je trouve un CDI. Un CDI avec une mission simple, mettre 80% de mon salaire de côté pour pouvoir racheter la maison dans laquelle on vit. Donc comme d'habitude, comme dans chaque mission que je me fixe, je suis obsessionnel. Donc au bout de 18 mois, j'ai mis plus ou moins 30 000 euros de côté. Et là, je vais voir ma mère, je lui dis « Ah, on est sauvés, etc. On a la maison. » Et de là, en fait, je me dis « Bon, il faut que j'essaye de commencer à faire quelque chose de ma vie. » En fait, à 16-17 ans, j'envisage de vouloir devenir riche. À 20 ans ou 21 ans, c'est un commitment, c'est une signature, c'est quelque chose que je m'engage à faire envers moi-même. Et Marvin ne se trahit pas. Quand j'ai un engagement envers moi, je respecte l'engagement et je fais les efforts qu'il faut pour pouvoir le faire.
Vous écrivez sur les murs de votre chambre, je serai millionnaire.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, je serai multimillionnaire, c'est un fait, ça va arriver. Donc voilà, c'est une question de temps. Je suis pas plus bête ou plus con qu'un autre, mais je vais faire tous les sacrifices nécessaires pour arriver à mon objectif. Et donc là, je me mets dans un plan où je me dis, bon, il n'y a que deux moyens pour gagner de l'argent. Un, on vole. Deux, les gens nous donnent l'argent. Donc, vu que j'avais pas envie de voler, je me suis dit, tiens, je vais essayer de créer de la valeur pour les gens. Dans mon contexte social, les deux choses qui reviennent le plus pour créer de la valeur pour les gens, c'est un, rappeur, deux, footballeur. Pas de chance, j'ai ni joué au foot et je suis pas non plus un musicien top. Donc, je me dis, bah, il reste l'entrepreneuriat. Et en réalité, donc, je me dis, tiens, entrepreneuriat, ok, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? J'ai perdu 50 kilos, je suis cuisinier. Pourquoi pas essayer de faire des plats pour les sportifs? D'ailleurs, donc, je commence donc, chez ma mère comme ça, une société donc, qui fait de la livraison de repas à domicile. Est-ce que ça va demander beaucoup d'argent? Bah non, pas vraiment, 1500 euros. Je livre avec ma voiture, je cuisine depuis la maison, ça me demande zéro capital de départ. Tu vas chercher tes premières barquettes, tu fais tes premiers plats, tu fais ton site internet, tu communiques sur les réseaux sociaux et t'essayes en fait. Et mon but à l'époque, il est simple, c'est de gagner 3000 euros brut, pas net, brut. Parce qu'avec 1500 euros, en vivant chez mes parents, j'étais déjà bien. Et donc, je vais dans toutes les salles de sport, je cuisine des trucs sains, je cuisine des trucs que j'ai utilisés pendant ma perte de poids. Et là, la machine commence, quoi. Donc, on lance ça avec mon petit frère qui m'aide pour faire la partie digitale. Et moi, je fais tout l'opérationnel. Donc, je fais la production de repas, les recettes, le SAV, la livraison. Et je commence comme ça. Je travaille énormément. À part dormir, je fais rien d'autre que travailler. Et on avance de semaine en semaine en semaine et on grandit. Chaque semaine, en fait, on faisait plus. Et pendant 5 ans, on grandit à 100% de croissance. À 25 ans, j'ai 100 personnes qui travaillent pour moi. On fait de la livraison, de la cuisine, du marketing, de l'IT. Enfin, je fais des levées de fonds. Enfin, ça a été une vraie école. Et donc, je gagne de l'argent pour la première fois dans ma vie en 2021, au moment, en fait, où je fais ma première revente d'actions sociales. J'ai plusieurs millions d'euros. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je deviens, du coup, millionnaire ou slash multimillionnaire. Et donc, en réalité, donc, à partir de ce moment-là, je commence à avoir de l'air. Et je me dis que je dois continuer, en fait, à développer ma boîte. Et on arrive en 2023. Et 2023, c'est en fait, Marvin 2.0. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait de la start-up pendant 5 ans. Ma start-up, pour la première fois de ma vie, elle grandit plus. Seulement, pour la première fois de ma vie, je n'ai jamais eu autant de charges. Mon beau-frère, qui s'occupe des finances, me dit « Écoute, c'est simple, la boîte, en novembre, elle est morte. » Et donc, à ce moment-là, je licencie 50% de ma masse salariale. Et le pire, c'est que la plupart, c'est mes potes. Donc, ce qui m'a forcé à licencier correctement. Donc, c'est-à-dire, j'ai replacé, en fait, 85-90% des gens dans des boîtes. Mais entre-temps, il s'est passé un truc dans ma vie. J'ai un pote qui vient me voir, qui me dit « Écoute, Marvin, ouais, je sais que tu as des problèmes de croissance pour le moment. Est-ce que tu as déjà pensé à faire de l'acquisition externe ?» Donc, il se met en faisant de l'achat de société. Moi, cuisinier, je suis racheté une société. Je dis, mais il est fou. Enfin, j'ai eu une boîte, j'ai eu de la chance. Ça va, mais je ne vais pas recommencer à racheter des boîtes. Je suis pas Bernard Arnault. Il me dit, non, et tout, c'est une boîte comme toi. Il me dit, ah ouais, fais même chiffre d'affaires et tout. Ok, même chiffre d'affaires. Ok, c'est bien, c'est pas mal. Et il y a moins de personnel. Je dis, ah bon, il y a moins de personnel. Ok, ça m'intéresse. Et ils font quoi? Ils font de la livraison de repas comme toi. Je dis, ah ouais, ok. Et en mars 2024, du coup, j'ai acheté cette société. Et là, en fait, bah, d'un coup, boum, je refais x2. Donc, en fait, je continue ma croissance à 100% par an. Sauf que là, bah, j'ai développé des nouvelles compétences et je me suis réinventé. Je me dis, ah, je sais aujourd'hui racheter des boîtes. Bah, donc là, j'ai débloqué en fait un super pouvoir de plus. J'ai de l'argent et je peux acheter des boîtes. Et c'est une compétence que très peu de gens ont. Et donc, en fait, je me dis, bon, bah, voilà. Et j'en ai acheté, là, ici, on est en 2025, j'en ai acheté 4 entre-temps pour continuer en fait mon développement. Pour faire simple, aujourd'hui, ma valeur est identifiée à la valorisation de mes entreprises. Et chaque année, en fait, ma valeur monte de plusieurs millions d'euros. Donc voilà.
France Culture. Les pieds sur terre.
Pour moi, le vrai riche, c'est la personne qui, entre ses idées et ce qu'il veut faire, il n'y a pas de limite. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je me considère comme riche. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas faire qui existent sur la Terre? Je ne pense pas. Je pense que je peux au moins tout louer. Donc voilà, dans le pire des cas, si j'ai envie d'aller dans une super maison, un super bateau, je sais pas quelle autre folie existe sur Terre, mais je pense que je peux aujourd'hui au minimum, en dehors de l'acheter, je peux le louer, mais je ne le ferai pas parce que j'ai un mode de vie en fait assez très simple. Enfin, je veux dire, je suis très simple sur moi. Je n'ai pas de montre, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de vêtements de marque. Alors dans ma vie personnelle, ce que je m'autorise à faire, c'est vivre ma passion du coup pour l'automobile parce que c'est une vraie passion pour ça. Et je dirais que là où je dépense le plus d'argent, c'est dans la nourriture. Vraiment, c'est vraiment le truc. Je pense que ma femme me dit, mais il est fou. Heureusement qu'on est que trois à la maison. Moi, la nourriture, vraiment. Et j'adore. Moi, j'adore, c'est quand il y a des gens qui viennent chez moi. Comme ça, je peux acheter plein de trucs. Genre, on partage et tout. Mais c'est vrai que, ouais, je vais toujours dans les meilleurs magasins, dans les meilleurs endroits. En dehors des restaurants, juste pour ce que moi, je mange, je peux dépenser, ouais, entre 3 et 5 000 euros par mois. Oui, j'ai un bel endroit de vie. Je voyage aussi en business class, mais typiquement, prenons l'exemple de la business class. Dans des vols de moins de 3 heures, je ne prends pas la business class parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, en fait, avec ma forme physique, je peux me permettre du coup de ne pas être fatigué après 3 heures de vol. Pourquoi je prends la business class quand là, par exemple, fin du mois, je vais à New York. New York, je reste là-bas 5 jours, j'ouvre donc mon deuxième café. Si je voyage pas en business, quand j'arrive, je suis crevé. Et en fait, la business class peut paraître chère et elle est chère. Par contre, quand je réfléchis que ça me fait gagner 2 journées et que sous ces 2 journées, je peux prendre des décisions qui vont me faire gagner plus d'argent que le coût de la business class, bah dans ce cas-là, ça devient tout de suite moins cher.
Vous êtes heureux de gagner de l'argent ?
Plus maintenant. Parce que t'es heureux lors de tes premiers 10, 15, 20 000 euros. Aujourd'hui, c'est une habitude.
Là, on se trouve dans votre bureau, qui est une sorte de hangar moderne, aménagé. Et il y a 4 voitures.
Alors, sur les 4 voitures, du coup, on a une GT3 RS, on a un Lamborghini Urus, une Lamborghini Huracan et une Lamborghini Huracan STO qui appartient à un ami à moi qui m'a demandé du coup de la garder parce qu'on revient d'un rallye. Et donc, on est approximativement 1 million d'euros. Avec la STO, en plus, on est plus ou moins 1 400 000. J'aime les voitures, pourquoi ? Parce que c'est la liberté. J'adore ça. J'adore rouler parce que je trouve que t'es libre en fait. Et ça, c'est incroyable. C'est là où j'ai trouvé une zone où je me dis, allez, bon, tu peux te lâcher avec ça, tu peux être heureux, genre, c'est cool. Je pense qu'on peut être libre à partir de 0 euro par mois. Dans ce cas-là, oui. Mais on peut pas se soigner de la meilleure des manières, on peut pas se nourrir de la meilleure des manières, on peut pas faire tout ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Moi, je veux être libre en faisant ce qu'il y a de mieux. Comme je disais, ici, il y a que des fauteuils, il y a 0 marque. C'est des fauteuils orthopédiques, enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je reste assis sur une chaise pendant 8 heures. Ben, je préfère payer une chaise plusieurs milliers d'euros qui va me permettre plus tard de me tenir encore un peu droit que d'avoir des chaises de mauvaise qualité qui fait que dans la finalité de ma vie, je vais le payer. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tu vas toujours le payer avec ton temps et ton argent. En fait, pour moi, gagner de l'argent, ça veut dire être libre, tout simplement. Et je pense que le seul truc que Marvin veut être, c'est libre. Parce que je parle à la troisième personne parce que j'essaye aussi de faire beaucoup d'introspective sur moi-même. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais cela? Et il y en a beaucoup qui rigolaient aussi. Bah oui, parce que quand tu dis « ouais, je vais devenir riche », bah ouais, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Devenir riche, c'est pas possible. Bah ouais, bah moi j'ai envie vraiment. Donc en gros, je vais le faire. Et du coup, j'ai coupé avec tout le monde. Moi, j'ai très peu de contacts directs. Je fais très attention à une chose dans ma vie. En réalité, à part ma femme, mon fils et quelques membres de ma famille où j'ai du temps illimité, je filtre tout le monde. En fait, j'ai l'impression d'avoir une perception du monde qui est juste, mais la réalité, c'est que quand je parle avec des amis ou des gens que je peux voir de manière ponctuelle, ils me disent non, t'as tout faux et t'as un décalage total avec ce qui se passe dans le monde. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense qu'on est le produit de son environnement. Donc, je fais très attention à l'environnement que je fréquente, mais même pas par. C'est juste parce qu'en fait, ça pollue. Genre, en fait, il m'apporte pas de positif.
Vous avez coupé à l'époque avec tous vos amis.
Oui, voilà. Tout le monde. Enfin, je pense qu'à part mon meilleur ami de l'époque, tout le monde. Plus simple. Et c'est pas des coupures méchantes, hein. Si les gens m'envoient un salut, ça va, je vais répondre. Je vais juste pas donner de suite à la conversation. Parce qu'il y a pas de raison, en fait. Et c'est pas une coupure genre, ah, je suis mieux que vous ou quoi. Non, c'est juste que dans l'environnement dans lequel on était, bah, je me sens plus bien. Donc, j'ai envie de changer. Ma plus grande paroisse, c'est d'être pauvre. Clairement. J'ai peur, typiquement, comme mon père, de pouvoir tomber malade et de pas pouvoir être soigné correctement. J'ai peur, comme j'ai pu avoir l'occasion, quand il est décédé, de pas pouvoir prendre les billets d'avion parce qu'on n'avait pas les moyens. J'ai peur de pas pouvoir avoir de chauffage. J'ai peur, en fait, de tout ce qui est corrélé à ça. Alors, en fait, j'ai pas envie d'être écarté des pauvres. J'ai envie d'être écarté des pauvres qui veulent pas s'en sortir. Donc, ouais, je coupe totalement, quoi. Je pense que par définition, les gens adorent rester avec des gens qui leur ressemblent. Et je pense que quand tu commences à gagner de l'argent, bah, tu restes avec beaucoup de riches. Mais il y a beaucoup, en fait, de riches totalement différents. T'as les riches, pour moi, héritiers. Tu as les riches entrepreneurs et t'as les riches chanceux. Les riches chanceux, c'est ceux qui, en fait, qui étaient là au bon moment, au bon endroit. Qui ont juste eu une bonne opportunité de business et qui ont explosé dans leur opportunité. Mon but à titre personnel, c'est de devenir milliardaire. Parce qu'avec ça, je vais avoir un vrai impact. Parce que quand tu pèses un milliard, tu peux prendre 10, 15, 20, 30 millions pour construire un village, des hôpitaux, aider des gens. Parce que je suis quelqu'un de, je pense, très, très humain et j'ai beaucoup d'empathie. Et typiquement, ce qui se passe, par exemple, au Sénégal, ça me rend malheureux. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. Mais soit, en fait, je pleure, soit je me dis, écoute, bouge-toi, essaye de faire un maximum d'argent et peut-être que dans les 10, 15 dernières années de ta vie, tu pourras aider comme si tu avais pu aider toute ta vie, en fait. Si je le fais pas, mes enfants le feront. Parce que, de toute manière, la valeur est toujours redistribuée de génération en génération et je ne vais pas créer des enfants qui vont vivre sur mes crochets ou qui vont avoir... Non, non, mes enfants vont comprendre que c'est leurs parents qui sont riches, en l'occurrence ma femme et moi, pas eux. Et derrière que si eux veulent de l'argent, bah, ils ont intérêt à sortir les doigts et aller bosser aussi parce que bah, nous, personne ne nous a aidés et on ne va pas les aider non plus. On leur a déjà donné une éducation qui est incroyable. La chance qu'ils ont de pouvoir passer autant de temps avec ma femme, qui est quelqu'un de juste extraordinaire, c'est une chance inouïe d'avoir quelqu'un d'aussi sain qui te développe intellectuellement. Moi, je suis là de manière ponctuelle. Ça, déjà, pour moi, c'est assez de valeur pour eux pouvoir construire leur futur. Est-ce que je doute ? Je pense que oui. Peut-être le doute que j'ai le plus, c'est, et c'est parce que les gens me le répètent toujours, mais c'est peut-être que je travaille trop. La plupart des gens, enfin les gens qui me connaissent proches, ils me disent « Marvin, profite de ta vie, fais des choses un peu chouettes, etc. » En réalité, là il fait soleil, enfin le soleil est présent. Moi, je suis dans ma grotte en train de bosser, enfin en train de rédiger des trucs, en train de travailler sur l'avenir. Parce que ma vision du monde, c'est aujourd'hui, c'est le travail, construire des choses, aider des gens. En fait, je me dis que l'argent, c'est la liberté. Avec l'argent, je vais pouvoir faire plein de choses. Et que si je ne vais pas le chercher moi, personne ne va me le donner. À part l'année passée, où on a pris vraiment, je pense, 4 ou 5 jours avec ma femme pour aller au Sénégal. On n'a jamais pris réellement de vacances parce que, ben, pour moi, vacances, ça veut dire se reposer. Se reposer, ça veut dire être en danger. Et je pense que tant que tout n'est pas bien solidifié dans mes structures, je pense qu'il ne faut pas se mettre en danger. Et donc, je continue à travailler. Je pense que ça fait partie de ma punition. Genre, c'est ma punition de travailler tout le temps. Je déteste dépenser de la valeur. En fait, je n'aime pas dépenser de l'argent. Parce qu'en fait, si j'en dépense, ça veut dire que j'en ai moins. Si j'en ai moins, ça veut dire que je suis en danger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore Apple Pay. Parce que j'ai l'impression que je dépense pas d'argent. Mais payer avec ma carte, j'aime pas. Et j'ai pas de cash. Par exemple, j'ai zéro cash. Je ne dépense pas d'argent en cash. J'en ai pas.
Vous êtes radin ?
Ben, je pense, oui. Ouais, je suis radin, vraiment. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est très paradoxal. Et si on regarde, beaucoup de gens riches ont une forme de radinisme. Parce que... si tu ne sais pas faire des économies, si tu ne sais pas avoir la valeur du sou, de l'argent, tu ne sais pas t'enrichir. Et même mes associés, ils rigolent de moi, enfin parce qu'ils disent, mais t'es ridicule des fois. Genre vraiment, t'es ridicule, parce que je peux faire des économies bêtes. Genre typiquement, on est dans un hôtel, le coca il coûte, je sais pas moi, 12 euros, parce que c'est de beaux hôtels. Bah, je dis non, moi je vais prendre mon coca après. Dans une boutique, il est à côté à 2 euros. Enfin, je me dis, me volez pas, quoi. Et du coup, ouais, je fais plein d'économies bêtes comme ça. Je pense que c'est mon grand-père qui m'a transmis ça, d'ailleurs. La valeur de l'argent, c'est super important. Et c'est pour ça que je suis une des personnes, à mon avis, des générations ici, qu'en tant que jeune, qu'on peut catégoriser de riche, qui sont un des plus soft. Parce que moi, je cours pas après la reconnaissance des autres. Moi, je cours après mon confort personnel et ma longévité. Si on me supprime les voitures, je pense que des gens peuvent même pas savoir que je suis multimillionnaire. Parce qu'en fait, je suis tout ce qu'il y a de plus standard comme personne. Physiquement, ça ne se verra jamais. Enfin, c'est quasiment impossible.
Aujourd'hui, vous pourriez ne plus travailler ?
Oui, oui.
Vous gagnez suffisamment d'argent ?
Oui, sans souci. Ouais, je pourrais ne plus travailler, ouais. Mais j'ai plus vraiment de rêve. Je suis déjà dans ma vie de rêve aujourd'hui. Par contre, j'ai des objectifs. J'aimerais bien, du coup, comme je disais, devenir milliardaire. J'aimerais bien faire un des plus bels hôtels du Sénégal. J'aimerais bien également, du coup, avoir un gros impact dans le sociétal au Sénégal aussi. Mais gagner de l'argent, enfin... En fait, j'ai peur d'être pauvre, mais être riche me rend pas heureux. Je le serai ça à mes enfants.
Marvin, millionnaire avant 30 ans, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Perret Legras et mixé par Jordan Fuentes. Merci à Marvin Ndiaye, à Valentin Rémy qui est l'attaché de production des Pieds sur Terre et à Mina Morel, notre stagiaire. Bientôt en ligne et disponible une série de podcasts pour traverser en douceur les fêtes de fin d'année que les Pieds sur Terre vous proposent. Une sélection de 10 histoires surprenantes et lumineuses, avec des souvenirs d'enfance, quelques miracles inattendus, une ferme heureuse, une chorale de seniors, un balayeur poète et une avalanche de neige. C'est à retrouver sur franceculture.fr, l'appli Radio France et là où vous écoutez vos podcasts en général.